du coup, on a les mains libres. On va pouvoir faire quelque chose avec les mains. J'espère que vous êtes bien accrochés ce matin, que vous êtes bien assis, voilà. Attachez votre ceinture. Parce qu'attention, ce matin, la prédication, elle va être dangereuse. Il y a péril dans la demeure. Ça va pour la voix, parce que j'ai l'impression que ça fait un peu mal. Ce matin, nous allons parler d'un jeune homme qui s'est assis sur le bord d'une fenêtre et qui, accablé par le sommeil, il est tombé du troisième étage et il est mort. Mais ne soyons pas troublés, Dieu avait tout prévu. Il y avait un homme qui était là et qui l'a ressuscité. Est-ce que vous savez de qui on va parler ce matin?
Acte 20, chapitre 5. Enfin, on va commencer au début du chapitre. Quand le tumulte se fut apaisé, Paul convoqua les disciples pour les encourager. Puis, il prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. En parcourant cette province, il eut de nombreuses occasions d'encourager les croyants. De là, il passa en Grèce, où il demeura 3 mois. Au moment où il allait s'embarquer pour la Syrie, il apprit que les Juifs avaient formé un complot contre lui. Il décida alors de repasser par la Macédoine. Ses compagnons étaient Sopater, fils de Pyrrhus, originaire de Bérée, Aristarque et Secondus, ça c'est du nom, de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée et enfin Tychique et Trophime, de la province d'Asie. Ils prirent les devants pour aller nous attendre à Troas. Quant à nous, nous nous sommes embarqués à Philippe après la fête des pains sans levain et après une traversée de 5 jours. Nous les avons rejoints à Troas où nous avons passé une semaine. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les assistants et prolongea son discours jusque vers minuit. Nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison, éclairés par de nombreuses lampes. Un jeune homme nommé Eutychus s'était assis sur le rebord de la fenêtre, et comme Paul prolongeait encore l'entretien, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba du troisième étage. Quand on le releva, il était mort. Paul descendit, se pencha vers lui, le prit dans ses bras et dit « Ne vous inquiétez pas, il est encore en vie. » Et il remonta, rompit le pain, mangea et continua de parler jusqu'au point du jour. Puis il partit. Quant au jeune homme, il fut ramené chez lui indemne, au grand réconfort de tous. Je voudrais juste prendre le temps de prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est esprit et parce qu'elle est vie. Et je te prie que ta parole pénètre au fond de nos entrailles, Seigneur Jésus, dans nos cœurs, dans nos pensées, et qu'il change tout. Que cette parole change vraiment nos cœurs, nos habitudes, nous donne de regarder à toi et d'être éclairé par toi. En ton nom, Jésus. Amen. Dans ces histoires, en tout cas dans les actes, ce que j'aime beaucoup, c'est les petites histoires qui peuvent paraître insolites, mais qui mettent du piment au récit. Il y a un avant et il y a un après. Et pour moi, quand je lis ce genre de passage, je me dis, bon, on peut le lire comme ça, et puis regarder tout le processus et tout ce qui se passe dans les actes. Mais on peut aussi s'arrêter sur chaque détail et de voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire et qu'est-ce qu'il est en train de me dire au travers de ces passages. Et donc je voudrais vous proposer à venir avec moi, de ne pas rester en place, de ne pas vous endormir, mais de rester bien accroché, sinon ça risque d'être périlleux. Le texte commence, nous les avons rejoints à Troas, où nous avons passé une semaine. Troas, c'est une ville portuaire, qui est appelée aussi Alexandrie, et qui est située dans l'actuelle Turquie. Et la mission de Paul, on le voit au début de ce passage, c'est de diffuser l'évangile dans toutes les villes où il passe. Il partage l'évangile partout où il va, dans toutes les villes, et il parle publiquement du règne de Dieu, il parle publiquement de la foi en Dieu, et il s'efforce de convaincre tous les auditeurs, quoi d'où ils viennent, qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs, qu'ils soient païens, qu'ils soient romains, il est là pour eux et il est là vraiment pour les convaincre de ce que Dieu a fait. Et souvent, Paul, on le voit dans les actes encore plus, et puis il le dit aussi dans les lettres, il crée beaucoup d'agitation à chaque fois qu'il arrive quelque part, beaucoup de soulèvements, des contestations, et même jusqu'à être rejeté par le peuple parfois. Mais ici, on est dans un moment particulier, on est à Troas, il y est passé déjà plusieurs fois, il va y passer en tout cas 3 fois avec son équipe, et il nous est dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Ici, il semblerait que c'est un rassemblement peut-être un peu plus privé. Ils sont au 3e étage d'une maison. Paul devait partir le lendemain. Il s'entretenait avec les disciples. Donc il est à la veille de son départ. Il est entre « je suis dans une mission, je m'arrête un petit peu là, j'ai quelque chose à partager avec ceux qui sont là, les disciples, et le lendemain il va repartir ». Donc on est dans un instant assez court. Il discute avec les disciples, il est là pour les encourager, pour les exhorter, pour les enseigner. Il est là vraiment pour les disciples. Et dans ces instants, il va prolonger son discours jusqu'à minuit. Et là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il avait donc à partager? Pourquoi sont-ils tous restés là? Pourquoi sont-ils restés là à veiller jusqu'à tard dans la nuit? Quel était ce message si important? Et là, on peut voir ce Paul, et on voit sa détermination pour donner sa nourriture spirituelle, coûte que coûte. Il est certainement fatigué, mais il s'arrête et il va prendre le temps, jusqu'à minuit. Et dans cette pièce, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Alors, la chambre haute, dans les pays orientaux, c'est la chambre qui est située forcément en hauteur. C'est une pièce dans une partie supérieure, qui sert à se retirer, qui sert à accueillir des gens, qui sert peut-être à méditer. C'est une partie qui est un peu plus privée. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est dit, parce qu'on aurait pu dire juste une chambre haute, qu'il est au 3e étage. Donc, on pourrait supposer que cette maison était peut-être d'une structure un peu plus élaborée, et que ce n'était pas forcément une maison juste avec un étage, ce qui était le plus courant, même aujourd'hui, chez nous, la plupart, on a une maison à un étage. Mais là, il y avait 3 étages. Donc peut-être que la maison appartenait à un riche, ou en tout cas à un noble, ou une personne qui avait les moyens de pouvoir recevoir ses disciples, recevoir les personnes qui étaient venues pour écouter Paul. On peut imaginer qu'il a disposé cette maison et que c'est lui qui a organisé ce rendez-vous. Il avait prévu des lampes. Ou alors, est-ce que les personnes qui sont venues avec leurs lampes? Il a peut-être même pourvu au repas et au pain qui allait être partagé. Et il nous est dit que certaines viennent de loin. Enfin, il ne nous est pas dit, mais on pourrait imaginer que certains sont venus de loin, effectivement, avec une lampe, et en se disant, ben, on va certainement tarder, et quand on rentre, on aura cette lampe qui pourra nous éclairer pour rentrer. Et c'est là que notre jeune homme Eutychus, qui s'était assis sur le rebord de la fenêtre, rentre en scène. Eutychus, ça veut dire celui qui a de la chance. Alors là, je ne sais pas s'il a eu de la chance, celui qui est fortuné, puisque assis sur le bord d'une fenêtre, tombé, c'est que déjà, il devait en tout cas être imprudent. Peut-être que dans cette pièce, il y avait du monde. Il y avait certainement du monde, et les jeunes, comme on a l'habitude. Alors là, les jeunes sont là, donc ça ne marche pas, mais parfois ils se mettent au fond, voilà, on s'assoit sur les murs, sur le muret. Et donc, voilà, il y a du monde. Et ce jeune assis est peut-être fatigué, il a peut-être beaucoup travaillé, il a peut-être beaucoup marché, et il est épuisé. Et le texte suit. Comme Paul prolongeait encore l'entretien, Eutychus s'endormit profondément. Apparemment, il n'était peut-être pas captivé par ce que Paul était en train de raconter. En tout cas, il était tellement fatigué qu'il s'est endormi au point de perdre l'équilibre. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre l'équilibre en dormant et de tomber, ça peut nous arriver. Mais ça me rappelle les moments où on lit une histoire à un enfant. Quand je lis un livre à Anaïs, le premier, ça va. Mais le deuxième, il y a les paupières qui s'alourdissent. Il y a des petits moments, au moment où on tourne la page, des petits moments d'absence, des micro-sommeils. On a l'impression qu'on va s'endormir. Et puis Anaïs qui est là et qui dit « Oh, tu te réveilles ? Réveille-toi, papa !» On est dans ce moment-là, soudain, dans son sommeil. Eutychus perdit l'équilibre, mais là, il tombe du troisième étage. Quand on le releva, il était mort. Tombé du troisième étage, j'ai cherché pour savoir la vitesse à laquelle on tombe quand on arrive du troisième étage. De son propre hauteur, on tombe à 15 km/h. Troisième étage, 50 km/h. Donc, on peut bien imaginer que probablement la mort était certaine, elle était grande, surtout si on tombe au niveau du corps du haut ou sur la tête. Je passe les détails. Merci. Mais c'est pour vraiment se mettre dans la scène, se mettre vraiment en tête qu'est-ce qu'il est en train de se passer. On lit les passages, on les lit vite et on ne prend pas le temps de voir tout ce qui peut se passer à ce moment-là. Lorsqu'on dort, on ne maîtrise plus rien, on s'abandonne, on est complètement vulnérable. Et quand on est dans une situation de dangerosité, là c'était le cas de Tychus, eh bien la mort elle est élevée, elle guette et elle est vraiment pas loin. Il y a un proverbe qui dit « un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur ». Si Eutychus avait été éveillé par ce que Paul était en train de dire, qu'il avait été captivé au point de résister, de lutter, de s'endormir, ou si un voisin à côté lui dit « Oh, Eutychus, réveille-toi, écoute, qu'est-ce que Paul a à nous partager ce soir ?» Eh bien, je ne serais pas là en train de prêcher à son sujet, on n'aurait pas entendu parler d'Eutychus, on ne connaîtrait même pas son nom. Et je voudrais vous donner quelque chose pour quelqu'un ce matin. Pendant que je préparais ce message, vraiment, je demandais au Seigneur de me parler particulièrement, à des personnes en particulier. Et j'ai vu une personne qui avait une couverture rouge, peut-être une personne d'entre nous ici, une personne qui est anxieuse face au sommeil, une personne qui a des difficultés à s'endormir, des grosses difficultés, vraiment une anxiété qui est forte. Et je voudrais lui laisser l'image de Jésus qui dormait dans la barque. Jésus qui s'est endormi dans une barque alors qu'il y avait la tempête, alors qu'il y avait de l'agitation tout autour. Mais là, on est dans un autre sommeil. On est dans celui qui est le repos, la paix de Jésus. Les disciples l'ont réveillé. « Oh, occupe-toi de nous, regarde, on va périr. » « Non, non, vous inquiétez pas, je suis la paix. » Et je voudrais donner ce passage à cette personne. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes de la sécurité dans ma demeure. » Quand on suit le passage, Paul descendit, il se pencha vers lui, le prit dans ses bras et dit « Ne vous inquiétez pas, son âme est en lui. » Alors je ne sais pas si vous avez été témoin d'un accident. En tout cas, si c'est le cas, est-ce que vous vous êtes précipité pour guérir le blessé ? Précipité pour que, si c'est le cas, ressusciter le mort ? En tout cas, là, c'est ce qui s'est passé pour Paul. Il n'a pas attendu un instant, il est descendu des trois étages et il a agi. Les actes ont été écrits par Luc. Et Luc raconte certainement cet événement étonnant à cause de ce miracle. Il y a eu une résurrection, il s'est passé quelque chose de miraculeux, donc on l'a dans le texte et qui nous permet vraiment de saisir quelque chose. Et si on se met à la place de Luc, ou si on imagine qu'est-ce qu'il aurait pu être en train de dire à ce moment-là, regardez Paul, regardez son quotidien, rien ne l'arrête. Observez sa vélocité lorsqu'il descend les trois étages à toute vitesse et qu'il ressuscite ce jeune. Imitez-le. Paul, il n'a pas hésité et il a démontré à l'instant la puissance de Dieu. Il était en train d'exhorter, d'encourager les disciples et en même temps, il a démontré la puissance de Dieu à l'œuvre. Et Paul, il y a un passage qui dit, Paul, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance. Les embûches pour l'évangile, elles sont transformées en miracles. Les embûches pour l'évangile sont transformées en miracles. Et cependant, quand on lit ce texte, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas mentionné le mot « ressuscité ». Il aurait pu être dit « le jeune a été ressuscité, Paul l'a ressuscité ». Et ce n'est pas ce qui est dit dans le texte. Alors peut-être parce que Paul, il se faisait, il y a un passage dans Actes 17 ou 18, je crois, il est dit qu'il se faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Alors, je ne sais pas ce qui est commun, en tout cas, ça devait être assez commun de voir ce type de miracle, parce que je ne sais pas la différence entre un miracle ordinaire et un miracle extraordinaire. Ça reste un miracle. Donc certainement, c'est quelque chose qui devait être assez commun, en tout cas. Mais le jeune homme fut ramené chez lui, indemne, au grand réconfort de tous. La résurrection d'Éticus a apporté une grande consolation chez les chrétiens. Mais il n'y a aucune explication particulière qui n'est donnée à ce moment-là. Puis, le texte continue, ça aurait pu s'en arrêter là. Paul, il est remonté, il a rompu le pain, mangea et continua de parler jusqu'au point du jour, puis il partit. Parfois, quand on évite un accident de justesse en voiture, moment d'inattention, on a manqué quelque chose de grave, l'instant qui suit, on a une bouffée de chaleur, on a une montée d'adrénaline, on a les jambes qui flageolent, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, et on a besoin de s'arrêter pour dire « Est-ce que tu réalises ce qui vient de se passer là ? J'ai manqué de peu. » Et là, Paul, il n'a pas été déstabilisé. Cet incident, bien au contraire, il l'a pris de face et il y est allé. Et on voit vraiment la détermination de Paul par sa foi, et je pense que c'est ça qui encourage les disciples. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les embûches, ils passent à chaque fois par-dessus, et ça nous parle encore aujourd'hui. Donc on peut imaginer Paul qui est dans cette chambre, haute, dans cette pièce, et qui est en train de prêcher Christ ressuscité. Et là, imaginez, il est en train de remonter, il vient de vivre un événement, Eutychus, qu'il a ramené à la vie. Parfaite illustration. Pour continuer, Eutychus est tombé à pic. Il peut continuer son message. Christ est mort comme Eutychus, et il est ressuscité comme Eutychus. Mais à la différence, c'est que ce jeune, Jésus, il ne s'est pas assis à la fenêtre, mais il s'est assis en haut, à la droite de Dieu. Et c'est là la bonne nouvelle que Paul est en train de prêcher. Il prend tous les événements pour prêcher vraiment concrètement. Jésus, il est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour chacun de nous. Il est venu pour nous sauver de la colère qui est à venir, qui n'épargnera aucun homme. Et nous étions tous, comme ce jeune, Eutychus, endormi profondément, inconscient de notre état. Et nous avons chuté, comme lui, à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Et Jésus, il est descendu du troisième étage, il est descendu du ciel, de son trône, comme Paul, il est descendu jusque dans les profondeurs de la terre, pour nous réveiller et nous relever de cette mort spirituelle, de cette mort dans laquelle nous sommes tous atteints. Et Jésus veut faire resplendir son visage sur nous. Un autre moment, dans Éphèse, dans les lettres d'Éphèse, Paul dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » On l'a chanté tout à l'heure. J'avais demandé à Pierre qu'on chante ce chant où il y a vraiment cette parole qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Et à ce moment de ce passage, je me suis posé la question, mais où se passe alors l'essentiel de ce passage? Eh bien, je pense que ce n'est pas en bas, mais que c'est en haut. Ce n'est pas au rez-de-chaussée, mais c'est au troisième étage. Là où les lampes sont allumées. Là où les disciples sont réunis. Là où les disciples écoutent la parole de Dieu, Christ ressuscité. Là où la communauté se réunit pour partager le pain. Tout se passe dans la chambre haute. Et j'ai recherché un petit peu dans d'autres passages par rapport à cette idée d'être dans une chambre à part, cette chambre haute. Et j'ai cherché des... Il y a beaucoup de significations qui sont au sens propre, au sens figuré. Et on peut voir au travers de plusieurs passages que c'est là qu'on se retire pour méditer, c'est là qu'on se retire pour veiller, pour prier. Et on le voit avec Pierre quand il monte sur le toit de la terrasse, il y a certainement une chambre à cet endroit-là, et c'est là qu'il a une vision, il prie, et il voit cette nappe qui descend et que Dieu lui parle à ce moment-là. C'est dans cette pièce qu'on exerce l'hospitalité et qu'on accueille. On le voit avec la veuve, Sarepta, qui reçoit le prophète Élie. C'est aussi là où se préparent des repas communautaires avec Jésus et les disciples qui sont dans la chambre haute et qui préparent cette dernière Pâque que Jésus va prendre avec eux. C'est aussi là que persévèrent les disciples à la Pentecôte dans la louange et dans la prière. Et c'est aussi là où on se met à l'écart pour guérir les malades dans le cœur, physiquement, ou pour ressusciter les morts, pas forcément physique, on le voit dans les passages de Pierre avec Dorcas, ou avec Élie et puis le fils de la veuve qui est mort et qu'ils ont ressuscité, mais aussi pour guérir dans l'âme des personnes qui ne sont pas encore à Christ et qui sont comme ça, qui sont morts et qui ont besoin d'être à la vie et de renaître. Alors c'est dans ma profession en tant qu'architecte, il y a quelque chose qui est assez, assez marrant, assez étonnant aussi, mais c'est que souvent quand on fait des maisons pour des familles, il y a souvent cette chambre parentale. Il y a des chambres, mais il y a une chambre qui est parentale. La chambre parentale, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le dressing, il faut qu'il y ait la salle de bain, il faut qu'il y ait peut-être même un accès à une terrasse. Enfin, c'est vraiment le luxe, l'ultra. Si on peut faire une chambre parentale, ça serait vraiment chouette, ça serait super. Et ce que je voudrais vous demander aujourd'hui, c'est où est votre chambre ? Alors, je ne parle pas de la chambre parentale, mais je parle de la chambre que vous placez au-dessus de toutes les autres, celle qui est la plus importante dans votre cœur. Celle qui est la plus importante avec vos frères et vos sœurs en Christ. Celle qui est la plus importante par rapport à l'Église et aussi par rapport au monde. Cette chambre qui est éclairée et qui est toujours en contact avec Dieu. Et il y a peut-être des personnes ici qui, malgré les soucis, les préoccupations, qui les submergent, les font tomber de cette chambre et finalement ne reviennent pas là-dedans. Dans cette pièce particulière qui est près de Dieu et qui les garde en bas. Et s'il nous arrive d'être surpris et d'être en train de dormir, attention que le sommeil ne vienne pas nous surprendre. Veillons et soyons attentifs à ce qui se passe autour de nous. Parce que parfois, même ici, on peut entendre sans vraiment écouter. On peut recevoir des choses sans vraiment être édifié. On peut accueillir aussi des personnes sans vraiment partager d'un cœur à cœur. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on dort, on ne maîtrise plus rien, on s'abandonne, on est vulnérable. Et dans une situation imprudente, le tentateur, par le péché, fait rentrer la mort, le péché, et ensuite la mort qui peut nous guetter. Et là, je voudrais donner une autre parole pour une personne ici. Tu t'éloignes de moi, et tu as placé tes affections dans les choses terrestres. Et je voyais le Seigneur qui me montrait une passion qui était vraiment démesuré. Et Dieu qui veut l'encourager ce matin. Tu perds ton premier amour pour moi, tu es en train de t'endormir, mais je suis là et je viens pour venir t'éclairer dans ta vie et pour que tu me laisses cette passion, pour que tu te tournes vers moi plus que tout. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Il s'agit aujourd'hui, pour certains, de venir dans cette pièce, à cette place particulière. Entre dans ta chambre et Dieu te voit. À l'abri des regards indiscrets, mais exposé au regard de Dieu. Et dans cet endroit, on traite les choses dans nos vies qui n'honorent pas Dieu. Et Jésus désire faire luire sa lumière pour nous pardonner, pour nous guérir. On a l'exemple de Jonas, qui s'est endormi dans la cave du navire. Il était en train de fuir Dieu, alors qu'il était dans ce navire, qui avait la tempête, il est allé se cacher dans la cave, il est allé s'endormir. Et des personnes donc, qui étaient dans le navire sont venues le voir. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te caches, viens, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Et puis à ce moment-là, ils vont tirer au sort, et malheureusement, leur lit ne s'appelait pas Eutychus. Il n'a pas eu de chance, mais c'est tombé sur lui, et donc ils l'ont jeté par-dessus bord. Bon, en même temps, c'était son idée. Mais voilà, pour dire, quand on fuit loin de Dieu, on ne gagne pas. Et donc les signaux d'alarme qu'on peut avoir, donc il y a la séduction du péché, la tentation qui vont nous pousser à tomber. Il y a les convoitises des biens matériels, et ô combien dans notre siècle et dans notre temps, on est pris par tous ces biens matériels qui nous entourent. Il y a la paresse à cause du confort. On est de plus en plus à vouloir la dernière chose qui va nous donner encore plus de confort, plus de facilité. Mais attention à la paresse. Il y a le découragement face à la maladie, face aux épreuves qui peuvent nous éloigner et nous endormir. Il y a la déception, qu'elle soit amoureuse, que ce soit à cause d'amis, de famille, qui peut aussi être là et nous faire du tort. Dieu nous a donné la lampe, on en a parlé dans les paroles qui ont été données lorsqu'on a eu cette semaine de jeûne et prière, cette parole de Dieu qui est claire. La parole de Dieu, elle s'est faite chair, c'est Christ qui nous éclaire sur notre chemin et qui éclaire notre visage. Donc on a la lampe d'un côté, mais on a besoin de l'huile. Et l'huile, c'est ce qui nous permet de marcher par l'esprit. C'est ce qui permet de mettre en pratique les paroles de Dieu. On les médite et ensuite on les met en pratique. On veille et on prie. Et les actions que Dieu nous donne, c'est de pouvoir marcher dans la nuit, de vivre les actes jour après jour. Et lorsqu'on est confronté à quelque chose, un obstacle qui peut nous paraître impossible, Dieu nous donne la force. Et on le voit au travers de Paul, dans ce passage, de surmonter l'obstacle et de dire « Non Seigneur, ça c'est pas possible » et on avance. Et Dieu nous a donné, dans cette pièce haute, il ne nous a pas mis des murs, mais il a mis des piliers, pour qu'on puisse voir à travers, mais des piliers très importants. L'importance de la vie communautaire, et on l'a vécu aujourd'hui, on le vit ensemble, on chante, on loue, on prophétise, on reçoit de Dieu, on prie pour une nation. Donc ça, c'est les choses qui sont bonnes et qui sont importantes de vivre régulièrement. Il y a l'importance de mettre en garde un chrétien à côté de soi et qu'on voit qu'il est en train de s'endormir et qu'il a besoin d'être réveillé. Oh, réveille-toi. Et il y a aussi cette importance d'être soi-même éveillé ou réveillé par une personne qui va venir voir dans notre vie et dire, écoute, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin qu'on prie pour toi, pour que tu te réveilles dans cette situation? Et je voudrais nous encourager à mettre à profit toutes les occasions qui se présentent à nous. Et je voudrais terminer ce message, si on peut simplement se lever. Je vous invite à vous lever. Qu'on ferme les yeux. Et vous laissez imaginer cette chambre. Et vous laissez imprégné de cette pièce particulière. Et je vois comme une chambre haute, comme un parvis, une pièce qui est située entre deux endroits, entre deux mondes. C'est un lieu particulier qui prépare ce qui est à venir. Et d'un côté, je vois un monde qui est compartimenté, qui est exposé à des murs. Et ça peut être dans nos têtes, entre nous, dans nos maisons, entre nos villes, nos pays. Et dans ce monde, dans cet endroit, il y a de belles philosophies, il y a de belles communautés, il y a de belles architectures, il y a de belles cultures, il y a de beaux pays, mais tout est opaque, tout est divisé. La lumière ne peut pas pénétrer. La lumière de Dieu ne luit pas constamment. Et ça, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui, actuellement. Et puis vous imaginez de l'autre côté, il y a un monde qui est immense, qui est sans mur, là où il n'y a rien de caché. Tout est exposé à une lumière divine. C'est comme du cristal, c'est un royaume, c'est le royaume de Dieu, où tout est transparent. Même entre les êtres, tout est connu. Il y a une unité, tout est transparent. Il n'y a rien de caché. Apocalypse 22, verset 5. Dieu a placé des luminaires pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Après la fin des temps, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette chambre si particulière que tu nous réserves à chacun. Seigneur, merci parce que nous pouvons goûter à cela dès à présent, Seigneur, parmi nos frères et sœurs en Christ. Merci parce que nous pouvons être unis les uns aux autres et nous pouvons vivre cette transparence, vivre ce cœur à cœur les uns avec les autres, Seigneur. Merci pour ton royaume qui vient en puissance d'abord au travers de l'Église, Seigneur, parce que c'est ton choix, c'est ce que tu as voulu, Seigneur. Et merci parce que tu nous donnes une percée de ce qui se passera au ciel lorsque nous serons tous réunis avec toi et avec tous ceux qui auront cru. Sois loué, Jésus. Amen.